m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Pauline Leduc,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Sa voix était bien connue des auditeurs, notamment ceux de RFI, des téléspectateurs de France 24 aussi et de TV5 Monde. Notre ami Amobe Mevege, grand passeur de toutes les cultures, cultures africaines, de musique, d'humour, de tendances en tout genre, nous a brutalement quittés. Il avait 52 ans et sa voix reste évidemment ancrée en nous.
Salut à tous, bonjour. Oh, quelle effervescence, c'est génial.
Salut tout le monde. Salut. Salut.
Ah voilà. Bonjour à tous, incroyable. Merci, merci, merci. Oh là là, quel amour, quelle amouration, c'est génial. C'est génial. Un peuple uni autour de la passion radiodiffusée. Merci Radio France Internationale de le permettre chaque jour davantage au cœur d'un creuset œcuménique, tendance africanoïde de prédilection, mais ouvert sur l'altérité.
L'enthousiasme et la passion radiophonique et humaine d'Amobe qui avait 52 ans. On pense évidemment bien à lui aujourd'hui, à son épouse Kumba, à sa famille, à ses proches, à l'ensemble de ses amis, et que la terre lui soit légère. Son précédent roman, Un certain Monsieur Piekielny, largement inspiré par Romain Gary, a connu un joli succès, tant critique que public, et voici que cet écrivain, ancien joueur professionnel de hockey sur glace, glisse vers nous un nouveau roman, un drôle de livre, un livre drôle, un livre d'amour et d'humour, fils de l'union débridée de la passion romanesque et de la poésie. Il y est beaucoup question de cœur, des élans et des peines de cœur, du cœur battant du patrimoine littéraire français qu'est la Bibliothèque Nationale de France, du cœur de Voltaire, mais aussi de tous les mots M-O-T-S ou mots M-A-U-X, sortis du cœur de Verlaine, de Rimbaud, mais aussi de Baudelaire, Apollinaire, Hugo ou Aragon. Ajoutez à tout cela un étonnant pistolet, un cahier à gros carreaux, une plume trempée dans une douce ironie et quelques personnages aussi drôles qu'attachants, et vous obtiendrez un des romans les plus jubilatoires de cette rentrée littéraire française, Mon maître et mon vainqueur, de François-Henri Désérable, est paru aux éditions Gallimard, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour François-Henri Désérable.
Bonjour Jean-François Cadet.
La chute, la dernière phrase du livre, une fois n'est pas coutume, je vais la citer, c'est « Je me disais cette histoire petit père, tu devrais en faire un roman ». Et la première phrase du livre, ce qu'on appelle l'incipit, c'est pas mal non plus, « J'ai su que cette histoire allait trop loin quand je suis rentré dans une armurerie ». Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que juste avec ces deux phrases-là, François-Henri Désérable, vous avez le sens de l'accroche, vous avez le sens de la chute, rien qu'avec ces deux phrases, on se dit que vous avez dû prendre énormément de plaisir à écrire ce livre. L'écriture, c'est d'abord une histoire de plaisir.
Oui, c'est une affaire de jubilation. Moi, c'est ce que je recherche. Souvent, c'est difficile, c'est ardu. On peut passer des heures et des heures devant son ordinateur à se battre pour chercher une phrase. Et puis, de temps en temps, ça vient. La grâce semble tomber directement du ciel pour échoir sur votre page. Et ce sont ces moments-là, ces moments jubilatoires, je crois qu'ils se ressentent à la lecture. Et moi, c'est une chose à laquelle je suis très attaché. Je veux que mon lecteur ressente la jubilation que j'ai eue à écrire ce livre.
Mais jubilation de jouer avec les mots, de jouer avec les personnages ou de jouer avec le lecteur ?
Bon, sans doute les trois à la fois, puisque le lecteur, je le mène en bateau, les personnages, je leur fais subir toutes sortes d'avanies, et puis l'écriture, de jouer beaucoup avec l'écriture. Je crois qu'un écrivain se définit avant tout par son style, et là, l'auditeur pourrait tout à fait fermer les yeux et nous écouter et reconnaître nos voix. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un style ? C'est la singularité d'une voix par écrit, et c'est, je crois que tout écrivain devrait aspirer à ce qu'un lecteur ayant déjà lu un de ses livres puisse en ouvrir un autre sans avoir vu le nom de l'auteur sur la couverture et en un coup d'œil se dire « Ah, voilà, ça c'est du... »
Voilà, donc là c'est du Désérable, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors on a parlé de l'incipit et de la dernière phrase, il y a une histoire quand même entre les deux. Et le fil rouge de votre livre, c'est l'interrogatoire d'un témoin dans le bureau d'un juge d'instruction en présence de son greffier. Alors le témoin en question, c'est le narrateur du livre hein, et en face de lui, il y a donc ce juge que vous avez, pour reprendre votre expression, muté de Brest à Paris et emprunté à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, un autre écrivain qui s'appelle Tanguy Vielle. Ça se fait souvent comme ça, des prêts de personnages entre deux écrivains vivants ?
Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour Tanguy Vielle et il a publié il y a quelques années un roman qui m'avait énormément plu, qui a eu beaucoup de succès, article 353 du Code pénal, aux éditions Minuit, qui était le monologue d'un brave type qui avait jeté à la mer un sale type, et il racontait au juge d'instruction comment tout cela était arrivé. Et lorsque j'ai moi-même décidé de placer mon roman dans le bureau d'un juge d'instruction, je me suis dit que j'allais faire migrer un personnage du roman de Tanguy Viel au mien. Alors j'ai écrit à Tanguy Viel, que je ne connaissais pas personnellement, mais je lui demandais s'il me donnait l'autorisation de muter son juge de Brest à Paris, et je lui s'égrène de me l'avoir donné.
Alors ce juge d'instruction, eh bien, c'est un petit peu comme un journaliste radio finalement, avec encore plus de pouvoir que le journaliste, hein. Son métier, c'est de poser des questions. Et la base des interrogations du juge d'instruction, c'est presque une pièce à conviction, hein, en quelque sorte. C'est un cahier grand format, à grands carreaux, de 96 pages, comme bien des écoliers qui nous écoutent en ont. Vous en citez la marque dans le roman, ici on va peut-être éviter quand même. C'est un cahier qui appartient au suspect, à Vasco, un cahier dans lequel il a écrit des poèmes, alors quelques sonnets, quelques haïkus aussi. Vous utilisez vous-même ce genre de cahier pour écrire, François-Henri Désirac ?
Oui, ça m'est arrivé, puisque finalement ce roman, qui est une histoire d'amour passionnel, je l'ai écrit à la suite d'une histoire d'amour passionnel. Et j'ai commencé d'abord à écrire des poèmes, et mon intention initiale était de publier un recueil de poèmes. Et puis je me suis ravisé et j'ai décidé de prendre certains de ces poèmes, de les enrober de fiction, et j'imagine donc l'histoire de ce Vasco sur lequel on retrouve qui est arrêté lors d'un mariage, et on retrouve sur lui un revolver, qui n'est pas n'importe quel revolver, et un cahier sur lequel il a écrit des poèmes. Le juge d'instruction l'interroge. Vasco ne veut absolument rien dire. Il dit « Vous n'avez qu'à lire les poèmes, tout est dans les poèmes. » Le juge les lit, n'y comprend pas grand-chose, et convoque donc le meilleur ami de Vasco pour qu'il se fasse l'exégète de ce recueil des poèmes et l'aide à résoudre l'enquête et à dénouer les fils de cette passion amoureuse.
Voilà, une passion amoureuse avec une femme qui s'appelle Tina, une femme mariée, hein. Alors Tina, c'est un personnage assez fascinant, même complètement fascinant, plus qu'assez. Elle est belle. Elle n'est ni blonde ni brune, elle est plutôt rousse aux yeux verts. Elle est comédienne et elle voue une véritable passion à Verlaine et Rimbaud. Au tout début du roman, elle joue d'ailleurs dans une pièce de théâtre qui parle de ces deux poètes, hein, une pièce qui s'appelle « Deux jours et demi à Stuttgart ».
C'est ça, de jouer à Stuttgart, puisque Verlaine a tiré sur Rimbaud en 1873 à Bruxelles, et il a fait 555 jours de prison à Mons, et il n'a revu, la dernière fois qu'il a vu Rimbaud en sortant de prison, c'est à Stuttgart où ils ont passé deux jours et demi, et après Verlaine n'a plus jamais revu Rimbaud, et lorsqu'il apprend la mort de Rimbaud des années plus tard, il a cette phrase qui est très belle, il dit « Son souvenir est un soleil qui flambe en moi et ne veut pas s'éteindre ».
Ouais, magnifique, et donc c'est autour de cette dernière rencontre, voilà, que la pièce, donc deux jours et demi à Stuttgart, à laquelle participe le personnage de Tina, a lieu dans un théâtre. Elle est invitée à la radio pour en parler. Et dans votre roman, il y a une scène qui est sans doute très drôle pour la plupart des lecteurs, mais qui est absolument glaçante pour le présentateur radio que je suis. Nous sommes à la page 21.
On l'avait invité à la radio un matin pour la promo de sa pièce. L'animateur venait de lui demander si le théâtre ne faisait que reproduire le réel ou s'il le transcendait pour atteindre une forme d'universel. Question à laquelle, en retour, on obtient le plus souvent qu'une réponse éculée. Pas le genre de Tina qui avait décidé d'y réfléchir vraiment, comme si elle pesait intérieurement chacun de ses mots. Résultat, un blanc. Un long blanc que l'animateur a comblé comme il pouvait, en rappelant l'heure qu'il était, 9h17, le nom de la station et celui de son invité, son âge, 28 ans, sa profession, comédienne, le titre de la pièce, Deux jours et demi à Stuttgart, dont elle partageait l'affiche et qui lui valait une nomination aux Molières de la révélation féminine, et enfin son sujet, l'ultime rencontre entre Verlaine et Rimbaud, les deux jours et demi qu'ils avaient passés ensemble à Stuttgart en février 1875, avant de reformuler la question, alors le théâtre, mimétisme ou mimésis ? J'étais chez moi, dans la salle de bain, la radio posée sur la machine à laver, je me brossais les dents et je pouvais entendre distinctement le froufrou des brins de la brosse sur les mailles de mes dents. Je pouvais entendre s'écouler le mince filet d'eau. Et surtout, les silences de Tina. Oui, j'entendais les silences de Tina. Et je songeais qu'il faudrait établir une typologie du silence, les décrire puis les classer. Du silence suggestif au silence oppressant. Du silence solennel au silence désolé. Du silence monotone d'un coin de campagne en hiver au silence pieux des fidèles à l'église. Du silence éploré des chambres funéraires au silence contemplatif des amants au clair de lune. tous. Il faudrait les décrire jusqu'au silence radiophonique de Tina. Ça a duré comme ça pendant 10 minutes, d'un silence quasi parfait. Seulement interrompu par les questions de l'animateur qui les posait maintenant en s'excusant presque, comme s'il était intimidé par les silences réflexifs de Tina. De longs silences inhabituels à la radio et dont les relances de l'animateur ne faisaient que redoubler l'intensité. Elle m'avait d'abord intrigué, puis elle m'avait agacé. Elle semblait s'écouter ne rien dire, comme d'autres s'écoutent parler.
Alors François-Henri Désirat, je voudrais que vous fassiez une promesse. Promettez-moi que vous n'allez pas me faire ce coup-là d'ici la fin de l'émission, c'est promis ? Eh ben voilà, ça y est, heureusement, voilà Pauline derrière la console a gardé un petit peu de musique, parce que c'est vrai que c'est terrifiant pour un journaliste ou pour un animateur radio, un peu de silence à l'antenne. C'est vrai que la radio a peur du silence, vous le regrettez ?
En fait, dans ce roman, Tina est invitée à faire la promo de sa pièce et elle trouve l'exercice tout à fait vain. Et finalement, je remercie pour cette lecture absolument brillante. Elle finit par rompre ce silence. Voilà. Et comment elle le rompt ? Eh bien, elle récite des poèmes. Elle se dit que les minutes qu'on lui donne, elle va les consacrer à réciter de la poésie à une heure de grande écoute. Et ça, je trouve ça absolument fascinant de se dire que face à des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'auditeurs, pendant que des gens parlent gravement de sujets d'actualité, eh bien, on puisse réciter du Verlaine, du Rimbaud, du Apollinaire, du André Chédid, ou je ne sais quoi.
Alors, vous pouvez me réciter quelques vers de, de Verlaine, par exemple.
De Verlaine, eh bien, peut-être les vers qui ont donné le titre au roman. Es-tu douce ou dure ? Est-il sensible ou moqueur, ton cœur ? Je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. Et lorsque j'ai commencé ce roman, eh bien, je ne savais pas du tout comment j'allais le titrer. Il se trouve que Milan Kundera s'est accaparé les meilleurs titres pour les romans d'amour, L'insoutenable légèreté de l'être, La valse aux adieux, Risibles amours, voilà des titres que j'aurais voulu donner à ce roman. Et un soir, eh bien, je lisais ce recueil assez méconnu de Paul Verlaine, Chanson pour elle. Et lorsque je suis tombé sur ce dernier vers, Mon maître et mon vainqueur, eh bien, j'ai su d'emblée que ça serait ce titre-là.
Donc on va parler de Verlaine dans un instant. Auparavant, on va laisser une ou deux secondes de silence. Et on lance la musique.
Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand, si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps. Si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans.
Alors là, on a fait comme dans le livre finalement. Il y avait le silence, et le silence a été brisé par cette chanson-là, François-Henri Désérable, ton héritage de Benjamin Biolay. Pourquoi cette chanson-là ?
Mais qu'est-ce que c'est beau cette chanson !
C'est une bonne raison.
Si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge sang, c'est rimbaldien. Et on prétend parfois que la poésie n'existe plus, qu'elle est morte. Mais non, elle est là, elle est dans les chansons. Et j'ai énormément d'admiration pour Benjamin Biolay, qui est un des grands poètes de notre époque.
Mon maître et mon vainqueur, c'est donc le titre du livre que vous publiez chez Gallimard. Ce sont aussi les mots qui figurent, je le rappelle, sur le cahier de poèmes de Vasco, qui sert de fil rouge à la fois au roman et à l'interrogatoire du narrateur par le juge d'instruction. Une phrase issue donc, on le disait, d'un poème de Verlaine. Qu'est-ce qui vous touche plus particulièrement dans la poésie de Verlaine ?
Moi, je l'ai découverte, j'ai découvert la littérature à 18 ans, donc ma découverte de la littérature a été assez tardive. Je lisais très peu de romans et je ne lisais absolument pas de poésie lorsque j'étais enfant ou adolescent. Et à 18, 19, 20 ans, je découvre Rimbaud, je découvre Verlaine. Et ce qui m'a touché particulièrement, je crois que c'est qu'en découvrant sa poésie, j'ai aussi découvert sa vie. Et j'ai découvert la mélancolie très forte qui souvent accablait cet homme. Et cet homme qui parfois avait l'impression de tomber dans un puits sans fond, eh bien, il allait chercher dans ce fond des vers absolument, absolument lumineux. Et le recueil qui me touche le plus, c'est son premier, qu'il a écrit très jeune, à 21 ans, les poèmes saturniens. Et vraiment, j'envie aujourd'hui ceux qui, à 20 ans, n'ont pas encore lu les poèmes saturniens. Je les envie de ce qu'ils vont bientôt pouvoir se pencher
dans ce recueil. Ça veut dire que vous êtes de ceux qui pensent qu'on ne peut pas séparer les mots, la poésie d'un auteur, en l'occurrence Verlaine, de sa vie, du personnage qu'il était.
Oui, parce que la poésie c'est consubstantiellement lié à qui l'on est, à ce que l'on éprouve, aux sentiments qui nous traversent. Et si je suis persuadé que si Verlaine avait mené une vie tout à fait rangée, telle qu'il l'envisageait parfois, à laquelle il a aspiré, eh bien, il ne nous aurait pas donné des vers aussi lumineux.
Alors dans le livre, il est aussi question d'un portrait de Verlaine qui est d'ailleurs reproduit à la page 146. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce portrait-là et pourquoi est-ce que vous avez souhaité justement partager l'image au lecteur ?
Ben, il est dans un café à la fin de sa vie avec un verre d'absinthe, un journal. Il a l'air très mélancolique, assez perdu. On l'a couronné prince des poètes et pourtant il est là, il est sans le sou, il continue à gratter quelques poèmes sur des coins de table. C'est une image qui me touche beaucoup et à un moment j'imagine que mon narrateur décide de l'encadrer, de l'offrir à Tina pour son anniversaire. Et Vasco, l'homme dont elle est tombée amoureuse, va surenchérir en lui offrant un cadeau encore plus beau qui est le cœur de Voltaire. Et il y a quelques photos dans ce roman, il y a cette photo de Verlaine, il y a une photo d'un vers de Baudelaire où il rétablit une virgule qu'un correcteur a voulu ôter sur son manuscrit des Fleurs du Mal, sur les épreuves corrigées des Fleurs du Mal. Et puis il y a aussi cette photo de Paul Verlaine, et la raison pour laquelle j'inclus des photos dans mes romans, ce que j'ai fait dans le précédent à certains Monsieur Piekielny, ce que je fais encore dans celui-ci, c'est parce que je crois que dans certains cas elles peuvent venir renforcer l'effet de réel. C'est-à-dire que le lecteur, même s'il lit de la fiction, eh bien, lorsqu'il voit une photo, il se dit « Ah, mais c'était donc vrai ». Je vais vous donner un exemple tout à fait tiré de mon précédent roman, qui partait sur les traces d'un personnage dont parle Romain Gary dans La promesse de l'aube. À un moment, je raconte toute une émission de télé d'apostrophe, lors de laquelle se trouve Romain Gary. Et à la fin du chapitre, eh bien, je mets une photo de Romain Gary sur un plateau télé. Et beaucoup de lecteurs sont venus me voir en me disant « Mais je me souviens très bien de cette émission d'apostrophe, je me souviens de l'avoir vue, etc. etc. » Alors que cette émission, je l'avais inventée de toutes pièces. Mais la photo était venue en quelque sorte, comment
donner une nouvelle réalité en quelque sorte,
une réalité augmentée à la fiction. C'est
voilà,
ça.
C'est vrai que c'est assez fort. Un mot peut-être aussi, François-Henri Désérable, du regard que vous portez sur la relation tumultueuse, on peut le dire, entre Verlaine et Rimbaud. Est-ce que pour vous, c'est une passion amoureuse exceptionnelle ou c'est une passion amoureuse comme une autre, sachant que la racine du mot passion, c'est la souffrance?
Oui, alors c'est une passion comme une autre, en ce sens que des tas de gens vivent la passion, vous l'avez dit. La première acception de la passion, c'est celle du Christ. Ce sont les souffrances endurées par le Christ. Et l'amour passionnel est toujours éminemment douloureux. En revanche, elle est exceptionnelle, cette passion-là, puisqu'elle est entre deux génies de la poésie qui... Entre deux engueulades et deux amours et deux voyages, eh bien forge des vers que nous lisons encore aujourd'hui en ayant parfois les larmes aux yeux.
Alors il y a un chapitre du roman dans lequel vos deux amants, Vasco et Tina, passent une nuit dans un hôtel dédié à Rimbaud, un hôtel littéraire. Il en existe quelques-uns en France, dont un à Paris qui s'appelle tout simplement l'hôtel littéraire Arthur Rimbaud. Et notre reporter Fanny Gelb a rencontré ce matin Jacques Letertre, le patron.
Je suis dans la chambre Verlaine. Alors c'est la chambre où se passe une partie de l'action du livre. Cette chambre a plusieurs éléments qui soulignent Verlaine. Il y a une phrase au mur qui est tirée du colloxante sentimental. Vous avez une aquarelle qui représente Verlaine, le tableau de Fantin Latour où on voit Verlaine et Rimbaud, et puis une biographie de Rimbaud. Tout le reste de la chambre sont des éléments de décoration. C'est-à-dire, vous avez dans le milieu de la chambre une vaste glace qui comporte toute une série de plumes. C'est ce qu'on appelle chez nous les chambres plumes. Les gens aiment beaucoup et ça rentre dans l'idée du poète et dans l'idée du voyage. Un hôtel littéraire, c'est un hôtel qui est consacré entièrement à un écrivain. Le premier que nous ayons fait, c'était Proust. Et nous en sommes maintenant au sixième. Là, nous sommes dans l'hôtel qui est consacré à Rimbaud. À partir du bas, vous avez les poèmes de jeunesse sur deux étages, puis une saison en enfer, puis les illuminations. Et les deux derniers étages, ce sont soit les amis, Verlaine étant dans la catégorie des amis ou des relations de Rimbaud, et le dernier étage, c'est les villes où il a habité, que ce soit Londres, Bruxelles, Harare, Aden, et à chaque fois, il faut qu'il y ait une cohérence avec la vie de Rimbaud. Mais comme l'œuvre de Rimbaud est toute petite, elle est immense en termes de répercussion, mais en termes de taille, elle est petite, il n'y a pas eu trop de difficultés pour choisir les poèmes. Ces écrivains sont tous des écrivains que j'aime passionnément et je veux essayer de faire partager mon goût à travers 500 livres qui sont à disposition de nos visiteurs, à travers des éditions originales, des manuscrits, tout ce qui doit donner une meilleure compréhension de l'auteur concerné. L'impression que vous avez de bonheur quand vous prêtez un livre à quelqu'un, livre que vous avez beaucoup aimé, et que cette personne vous le rend en vous disant « c'est génial, j'ai découvert quelque chose », c'est un grand moment de satisfaction. Eh bien, on a le même genre de satisfaction quand des gens viennent et se disent « ça me donne envie de relire Verlaine ». Tout le monde a en classe étudié un poème de Verlaine, mais on n'a plus le temps de lire de la poésie. Là, sur les murs, vous avez de la poésie, ça vous donne envie d'en savoir plus.
Vous le connaissez, Jacques Letertre?
Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un grand connaisseur de littérature et un grand bibliophile. Et lorsque je l'ai rencontré à l'hôtel Arthur Rimbaud, eh bien, c'est lui qui m'a montré l'exemplaire original des poèmes saturniens dont je parlais tout à l'heure. Et c'était assez émouvant. Et je ne savais pas qu'il avait. J'ai appris il y a quelques jours qu'il a lu le livre et il va organiser une petite fête le 7 octobre à l'hôtel Arthur Rimbaud. Et j'en suis évidemment très heureux. C'est assez drôle d'aller parler du livre là-bas alors qu'une scène s'y passe.
Vous y avez passé une nuit dans cet hôtel comme vos personnages?
Pas encore, jamais.
Bon, et si jamais un jour quelqu'un décide d'ouvrir un hôtel François-Henri Désérable, à quoi ressemblerait la chambre nuptiale, par exemple?
Ah, écoutez, qu'est-ce que ça pourrait être un hôtel? Si ça serait, c'est très présomptueux de croire qu'un hôtel François-Henri Désérable pourrait être ouvert.
Vous êtes romancier, on peut bien l'imaginer.
Je dirais que ça serait un hôtel en pleine nature. Il y aurait une seule chambre avec une grande baignoire face à une baie vitrée, et puis il y aurait une cheminée, mais aux parois transparentes, et on pourrait voir la nature. Les, les flammes et derrière les flammes la nature, la neige peut-être, ça serait bien ça, à la montagne. Et puis il y aurait un pan de mur sur lequel il y aurait certains poèmes. Voilà, ça serait pas mal d'avoir un hôtel comme ça.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec l'écrivain François-Henri Désérable autour de son nouveau roman « Mon maître et mon vainqueur » chez Gallimard. Alors il y a donc Vasco, il y a Tina, il y a aussi le mari de Tina qui s'appelle Edgar et qui ignore tout évidemment de l'infidélité de sa femme. Alors Edgar, vous ne l'avez pas raté, hein, 1m90, blond, mâchoire carrée, yeux verts. La nuit, il grince des dents et il porte une gouttière, ce qui n'est pas très très glamour, hein, ce qui ne renforce pas vraiment son sex-appeal, une gouttière nasale évidemment. Pour couronner le tout, il travaille dans un bureau du ministère des Finances. Là aussi, il y a peut-être plus sexy. C'est important de poser les personnages comme ça. Vous les posez d'ailleurs d'abord, souvent en tout cas, d'abord par le physique.
Ah, ouais,
ce qui n'est pas le cas de tous les écrivains. Hein. Certains laissent au contraire l'imagination du lecteur vagabonder. Vous êtes assez précis sur les traits du visage.
Ouais, c'est vrai que c'est une réflexion que je ne m'étais pas faite. C'est peut-être un tort, puisqu'il faut laisser vagabonder, comme vous le dites, l'imaginaire du lecteur. Et si on donne beaucoup trop de descriptions, eh bien, on referme l'entonnoir. Et si le lecteur voulait imaginer notre héroïne blonde et qu'on lui annonce qu'elle est rousse, eh bien, il ne peut plus l'imaginer blonde. Oui, cet Edgar, je ne l'ai pas raté. Écoutez, je le fais très beau quand même. Il est très beau.
Il est baraqué,
musclé, c'est un bel homme. Mais je dis à un moment qu'il faut avoir l'œil dur à l'égard de ces personnages, mais le cœur tendre. Et j'essaye d'appliquer ce principe.
Il y a donc le mari, l'amant de sa femme et la femme. Le triangle amoureux, c'est une figure assez récurrente hein, de la littérature et du théâtre. De ces trois rôles, lequel vous semble le plus confortable ?
Je crois qu'aucun n'est confortable dans une passion amoureuse. Il y a toujours un terzo incommodo, et je cite souvent cette phrase de Baudelaire, l'ennuyeux avec l'amour, c'est que c'est un crime qui nécessite un complice. Et là, Tina a trouvé en Vasco un complice pour ce crime adultérin, quelques mois avant d'épouser cet Edgar. Et les trois sont dans une grande souffrance. Et je crois qu'aucun des trois rôle n'est en vérité à envier.
Alors quand Vasco et Tina se rencontrent, on peut parler de coup de foudre. L'expression est un peu galvaudée, mais c'est un peu ça quand même.
Oui, c'est un coup de foudre, on peut le dire. Ils tombent amoureux, ce qui est une expression, comment dire, assez malvenue, puisque l'amour est plutôt ascensionnel. C'est-à-dire que lorsqu'on tombe amoureux, on a plutôt l'impression de s'élever comme ça dans un éther impalpable, plutôt que de toucher le fond. Ils tombent amoureux et ils vont connaître cet amour impossible. Ce livre n'est qu'une énième variation d'un amour réciproque malheureux.
Et ce coup de foudre, il est physique, mais il est surtout intellectuel, parce que l'intérêt de Tina pour les mots, pour la poésie, joue un grand rôle dans leur relation.
Tina étant une grande admiratrice de Verlaine et Rimbaud, et Vasco étant conservateur à la BNF, après l'avoir rencontré lors d'une soirée, il a l'idée de l'inviter dans la réserve des livres rares et anciens à la Bibliothèque nationale de France, et il lui montre tous les trésors que possède la BNF, la Bible de Gutenberg, qui est le premier livre imprimé, les épreuves corrigées des fleurs du mal de Baudelaire, la prose du Transsibérien de Sandrard, l'exemplaire original des poèmes saturniens. Il lui met comme ça tous ces trésors sur la table, et à mesure qu'ils sont en train de consulter ces trésors, eh bien, une tension érotique commence à naître, à croître, et pris d'un désir irréfréné...
Attention, on s'arrête là, et on écoute la suite dans le livre, à la page 52.
Il n'y a pas 36 moyens de faire l'amour, pas dans la grande réserve en tout cas. Debout contre des étagères, ou bien allongé sur le sol, ou bien allongé sur la table. Les étagères étaient pleines de livres, le sol était dur, froid, incommode, restait la table. On a tous déjà vu ça dans un film, un bureau encombré de dossiers qu'on débarrasse d'un grand revers de main pour tirer son petit coup entre collègues. Et bien sûr, on a tous pensé le faire au moins une fois. Et peut-être que vous aussi sur ce bureau, j'ai ajouté avec un sourire égrégard. Mais le juge n'a pas relevé. Alors j'en suis revenu à Vasco, qui s'est dit pendant un instant qu'il allait faire comme dans les films. Sauf que là, sur cette table, ça n'était pas de vulgaires dossiers qu'on pouvait envoyer valdinguer à l'autre bout de la pièce, c'était la Bible de Gutenberg. C'était les épreuves corrigées des fleurs du mal. C'était l'exemplaire original d'une saison en enfer. C'était celui des poèmes saturniens. C'était les livres les plus rares de la réserve des livres rares. Alors Vasco s'est détaché des lèvres de Tina pour lui dire « rangeons-les ». Et il faut imaginer ces deux-là, dans un état d'exaltation extrême, traversé d'un irrépressible désir, fait tout entier de cette envie qu'ils avaient l'un de l'autre, il faut les imaginer s'arracher l'un à l'autre et domestiquer leurs instincts, tempérer leurs ardeurs et remettre avec le plus grand soin, avec la plus extrême précaution, chaque livre dans sa boîte, puis replacer chaque boîte à sa place, dans une bibliothèque qui comptait plusieurs milliers de livres. Les livres qui n'étaient pas à leur place, c'étaient des livres perdus. Livres perdus qu'on appelait des fantômes, et rien n'effrayait tant Vasco que les fantômes. Et eux, qui brûlaient toujours d'un désir infernal, méthodiquement, scrupuleusement, ils ont rangé les livres à leur place.
Et on va s'arrêter là, on va laisser un petit peu le suspense.
Ouais, hein. Par égard pour les jeunes auditeurs, c'est peut-être pas mal de s'arrêter
voilà,
là.
Absolument, on va laisser l'auditeur, lecteur découvrir ce qui se passe après. Au passage, dans le livre, hein, puisque vous le disiez, il est conservateur de bibliothèque, et pas dans n'importe quelle bibliothèque, hein, la Bibliothèque Nationale de France, votre personnage qui s'appelle donc Vasco, et vous portez un regard plein d'ironie sur ce métier de conservateur de bibliothèque. Vous utilisez même le mot de schizophrène.
Oui, c'est tout à fait schizophrène comme métier, puisque le conservateur a deux missions radicalement antagonistes. La première mission, c'est de conserver les documents. Et la deuxième, c'est de les valoriser, de les mettre en valeur. Donc de les montrer et de les dérober à la curiosité des regards. Donc le conservateur toujours tiraillé entre ces deux missions-là. Et moi, j'ai eu la chance d'être invité à la BNF et de tomber sur un conservateur qui avait plutôt envie de valoriser et qui m'a montré tous ces trésors. Et j'ai tenu entre les mains, par exemple, le manuscrit des Contemplations de Victor Hugo ou celui de La Recherche du Temps Perdu avec les Paperolles de Proust ou certains manuscrits de Flaubert. Donc c'est de rentrer comme ça dans la petite cuisine de l'écrivain, de voir les ratures, les repentirs, de lire que Hugo, à la fin de Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, décide de déposer une branche de houx et de la sauge en fleurs, puis se ravise, barre ce vers pour le substituer par un vers plus euphonique, un bouquet de houx verts et de bruyants en fleurs. Eh bien, lorsqu'on est lecteur, lorsqu'on est ému par la poésie, par ces livres-là, eh bien c'est vraiment quelque chose.
Ouais. Oui, c'est terrible parce que au siècle d'après, on n'aura plus cette possibilité-là, puisqu'aujourd'hui tout le monde écrit sur ordinateur, on voit plus les repentir aujourd'hui.
Ouais, mais je crois qu'on peut maintenant la BNF demande à certains écrivains des sauvegardes, les fichiers des sauvegardes successives qu'ils font, donc on peut continuer et les généticiens de l'écriture pourront s'amuser encore dans quelques décennies.
Est-ce que vous êtes bibliophile, François-Henri Désirable?
Je suis pas tout à fait insensible à la bibliophilie et j'ai
ça se sent.
Voilà, j'ai quelques petits trucs et bon, le je crois que mon bien le plus précieux en cette matière, c'est cet exemplaire original des poèmes saturniens que je me suis offert l'année dernière.
Mais vous êtes aussi un grand amateur d'amour, si j'ose dire, et ça s'entend, ça se lit évidemment aussi dans ce livre, Mon maître et mon vainqueur chez Gallimard. D'amour et d'humour, j'ai envie de dire, parce que il y a des moments absolument charmants, presque fleurs bleues, très romantiques, des scènes que l'on retrouve dans beaucoup de romans d'amour et pas toujours dans les meilleurs, et pourtant, on n'est jamais très très loin de l'ironie, on n'est jamais très très loin de l'humour. On a un petit peu l'impression que vous avez voulu déconstruire un petit peu tous ces clichés amoureux, vous les utilisez pour les ridiculiser.
Oui, même et particulièrement lors des scènes de sexe.
Voilà.
Hier, j'ai un ami qui m'a dit, en fait, tu es en train de devenir le chef de file de l'école érotico-comique.
Voilà. Alors,
je suis sans doute le chef de file parce que je suis le seul. encore que non, puisqu'il y a d'autres écrivains qui parviennent magistralement. Mais c'est ma pente naturelle. Moi, lorsque j'ai découvert la littérature, c'était avec Belle du Seigneur, à l'âge de 18 ans, qui est un des romans à la fois les plus lyriques, mais aussi les plus drôles de la littérature francophone. Et lorsqu'on traite d'un sujet grave, on n'est pas obligé de le traiter gravement. Et j'aime qu'il y ait toujours une certaine ironie qui plane. Et le but ultime serait d'arracher un rire au lecteur qui serait suivi immédiatement d'un sanglot d'émotion.
Ah bah c'est sur la bonne voie. Alors on va prendre un petit exemple. Par exemple, on a beau en faire tout un cas, écrivez-vous, on a beau l'enrober de périphrases et l'embellir de métaphores, qu'est-ce que l'amour, in fine, des valves qui s'ouvrent et se ferment comme des clapets. Alors c'est pas vous qui parlez ainsi, c'est le narrateur. Il serait écrit tout de suite après. Hein, quand il serait écrit tout de suite après, mais quand même, il fallait la sortir cette phrase-là.
Ouais, on peut très bien imaginer l'amour d'un point de vue purement organique. En vérité, on sait que c'est beaucoup plus que cela. Il y a beaucoup de gens qui raillent le chagrin d'amour. Et moi, j'étais peut-être de ceux-là avant d'en vivre un réellement. Je crois qu'il y a un basculement dans la vie qui s'opère. Il y a le moment où on se moque un peu des souffrances du jeune Werther, et puis. Vient le jour où les ayant fait siennes, où les ayant éprouvées, eh bien, on ne s'en moque plus du tout et on comprend que perdre quelqu'un, un chagrin d'amour, c'est faire le deuil pour soi-même d'une personne qui est encore en vie, que d'autres peuvent voir, que d'autres peuvent sentir, toucher, entendre. Et c'est quelque chose qui peut être très, très, très douloureux.
Et donc vous oscillez en permanence justement entre cette douleur et cet humour, cette ironie. Il y a pas mal de comparaisons peut-être un peu prosaïques. Par exemple, il en va des coupons de réduction comme de l'amour. Ils portent en eux un terme, une échéance. Le désamour est immanent à l'amour comme la date d'expiration l'est au coupon de réduction. La différence que sur le coupon tout est clair, tout est écrit noir sur blanc. On sait au jour près quand il sera périmé, ce qui n'est jamais le cas de l'amour.
Oui, heureusement, c'est dans cette incertitude que réside le mystère ineffable de l'amour.
Voilà. Et puis une dernière citation encore, intéressante celle-ci, parce qu'elle se réfère directement à la poésie et à l'écriture. Le sonnet, et il y en a des sonnets dans le livre. Le sonnet, c'est un peu comme l'amour conjugal, sa beauté naît des contraintes qui lui sont inhérentes. Est-ce que vous aimez vous fixer des contraintes d'écriture quand vous écrivez? Vous n'êtes pas un écrivain oulipien.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je suis pas un écrivain oulipien. Je ne cherche pas à faire disparaître une lettre comme a pu le faire Georges Perec avec le E. Alors. Non, en poésie, oui, je suis tout à fait amateur de contraintes en poésie. J'adore certains vers libres, je suis un grand admirateur de Sandra, je connais certains vers par cœur de la prose du Transsibérien. Et néanmoins, celle qui me touche le plus, c'est la poésie codifiée. C'est celle où il faut faire tenir un vers en 12 syllabes, avec une alternance des rimes féminines et masculines, pour un sonnet avec deux.
Donc plutôt la poésie classique.
Voilà, plutôt classique, plutôt 19e siècle. Oui. Non, même au 20, non, parce que je suis Aragon, c'est du 20e. Je parlais tout à l'heure d'André Chédide, qui est une poétesse morte récemment et qui est pour moi une très grande poétesse, qui n'est pas une poétesse. C'est pas très classique, mais c'est quelque chose qui me touche énormément.
Et la poésie des chiffres, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, François-Henri Désirat ? Par exemple, si je vous donne un numéro, le numéro 14096.
14096, c'est le numéro de série du revolver avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud, qui est un Le Faucheux à 6 coups de calibre 7 mm, qu'il a acquis à Bruxelles en juillet 1873. Et bon, il a tiré 2 balles vers Arthur Rimbaud. L'une a fini dans son poignet, Verlaine a été arrêté. Et le revolver a été vendu il y a quelques années aux enchères chez Christie's. Et moi, j'imagine que mon Vasco, ayant fait l'objet de la part du futur mari de Tina, décide de se procurer une arme à feu pour se défendre, s'il en a besoin, et se rend à ses enchères, enchérit, finit par remporter le lot pour la modique somme de 428 000 euros. Que bien sûr, il n'a pas les moyens de débourser, mais comme il est conservateur de la BNF, eh bien, la maison de vente aux enchères pense qu'il l'a préempté pour le compte de la BNF, et il se retrouve avec le revolver.
Voilà, donc là, on va s'arrêter là, on ne va pas aller trop loin dans le récit. Puis vous parliez tout à l'heure du cœur de Voltaire, là aussi, c'est un élément majeur de votre roman. Il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup étonné, qui m'a un peu fait sourire, ou pas, je ne sais pas. C'est à propos d'un personnage que l'on croise à 2 reprises. C'est vraiment pas un personnage important du récit. C'est un personnage qui se pique d'écriture. qui est un ami d'Edgar, en fait. Hein, voilà, le mari de Tina, il travaille avec lui au ministère des Finances et il a écrit un roman. Et vous écrivez, il y a pire, bien pire que de ne pas être publié, c'est de l'être. Vous le pensez vraiment, François-Henri Désérable?
Je crois que les écrivains sont toujours mécontents et le trait le plus saillant de leur caractère est l'insatisfaction. Et les écrivains qui ne sont pas lus souffrent de ne pas être lus et les écrivains qui sont très lus souffrent d'être mal lus. Et donc là, je mets en scène en quelque sorte un écrivain, mais qui n'est pas un bon écrivain. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a de très bons écrivains, et ça, qui ne touchent pas un public très large, qui sont des écrivains extrêmement confidentiels, et d'autres qui sont très mauvais et qui touchent un public très très large. Donc la littérature n'est pas un domaine méritocratique, et ça, on peut le regretter.
Mais quelles sont les qualités d'un bon écrivain, alors, puisque vous utilisez cette expression?
Alors, qu'est-ce qu'un bon écrivain? Écoutez, il y a cette phrase d'Oscar Wilde. Si l'on n'éprouve pas de plaisir à relire un livre que l'on a déjà lu, c'est qu'il n'était pas nécessaire de le lire une première fois. Eh bien, pour éprouver du plaisir à relire un livre que l'on a déjà lu, il faut qu'il se tienne sur son style. Donc un livre dépourvu de style, un livre dont l'écriture est dépourvue de singularité, un livre qui n'est qu'un moyen de raconter une histoire, où l'écriture n'est qu'un moyen de raconter une histoire, et non... où l'écriture n'est qu'un simple outil et non une fin en soi, eh bien, pour moi, est un livre assez peu intéressant.
Eh bien, on va lire et relire « Mon maître et mon vainqueur » de François-Henri Désérable, publié chez Gallimard. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être venu nous voir, et je précise que nos auditeurs vont pouvoir le lire une première fois, et donc peut-être une deuxième, voire une troisième, puisqu'ils vont pouvoir en gagner 3 exemplaires de ce roman en répondant à la question suivante à partir de la page Facebook de l'émission. Quelle est la couleur des yeux de Tina? Merci encore, et bonjour à vous, Alain Pilot.
Bonjour Jean-François, bonjour François-Henri Désérable. Bonjour.
Eh ouais. Oh funérailles.
Oh punaise.
Oh punaise.
Oh punaise, ouais, ça, c'est, je savais, ça finit toujours comme ça. Hein?
Que dingue quand même.
Allez.
Tu remues ton cul et tu te sens vaillant quand le son de Marseille est là. Boulingue est ton cul et vitesse roumanan. Le son de Marseille est tout là. Le coin libéra fuego les emboucan. Le son de Marseille est acquis.
Oh, papa.
Tu te sens léger, tu te fous des gonflants. Oui, Marseille est dans la partie.
Vous l'avez compris, on part dans le sud de la France avec vous aujourd'hui, Alain, avec A Cavallo, c'est le titre de cette chanson de Massilia Sound System, bien sûr.
Toujours là depuis 37 ans.
Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent depuis toutes ces années? Ça commence à en faire.
Oui, leurs textes rimbaldiens, qui sait, leurs chansons sont plus le reflet d'une inquiétude de la société actuelle. La musique est là pour illustrer leurs moyens d'expression, la parole. C'est un tout, les deux se complètent pour pouvoir exprimer leur vision et surtout pour pouvoir transmettre un message, à l'instar de Drôle de Poisson, leur Strange Fruit de Billie Holiday à eux.
Le thème, on l'a compris, ce sont quand même les réfugiés qui meurent en mer Méditerranée, tous les jours. Alors aujourd'hui, on est vraiment centré sur les réfugiés afghans. Bon, bien sûr, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils en viennent de cette région, hein, parce que c'est médiatique, mais il faut pas oublier ceux qui viennent de Syrie, ceux qui viennent d'Afrique, ceux qui viennent de partout, qui meurent tous les jours en mer Méditerranée. Oui, c'est un texte qui est pas drôle du tout, mais qui a une grande force, je trouve, et une grande beauté, et qui est en plus très bien servi par une musique qui lui bat comme un gant, effectivement. Alors effectivement, l'inspiration vient de ci, de là, comme souvent. C'est surtout ce qu'il faudra retenir, c'est vraiment le thème central.
Tu n'es pas étreint du dire la marque, et c'est l'esti. Leïsa.
Sort de poisson dans la mer, ils n'ont pas les biens vivants.
Leïsa.
Ils flottent le ventre en l'air, ballottés par les courants. Sort de poisson dans la mer, il y a des petits et des grands.
Drôle de poisson, Massilia Sound System dans VMDN sur RFI. Alors dites-nous, Alain, pourquoi et où ont-ils fait cet album?
C'était pour se faire du bien, Jean-François, et la réalisation s'est déroulée à la maison. La maison, c'est leur studio à Beaumont, entre Saint-Barnabé et Saint-Julien, deux des 111 quartiers de Marseille. Autant un lieu qu'une manière de faire. Au début, Massilia n'intéressait pas grand monde. Par nécessité, ils ont rapidement créé leur label, leur studio. Ils ont toujours gardé cette autonomie de création et de production. Ils ont mis 3 mois à concevoir cet album, entre septembre et décembre 2020. Il a été facile à faire. Il était encore en plein confinement, en plein brouillard. Psychologiquement, cela les a un peu sortis la tête de l'eau. Cela a été plus rapide que d'habitude. Il y a 2 ans, ils avaient tenté, mais ils n'y étaient pas arrivés cette fois. Ils y sont bien arrivés avec même des références à leur début. D'ailleurs, pourquoi la chanson « À la rue » est un contre-pied de ce qu'ils pouvaient dire dans leur morceau de Tchourmo en 1993 ?
Alors, à la rue, dans Tchourmo, en 1993. Alors, on a toujours été un peu critique vis-à-vis de Marseille, bien qu'on en soit... On a toujours défendu ce côté qu'il fallait être fier du lieu où on vivait, pas de lieu où on est né, parce que là où on est né, on s'en fout. C'est là où on s'implique, là où on vit, là où on fait des choses qui est important. On a toujours été critique parce que qui aime bien châtie bien, c'est normal, et puis il ne faut jamais se contenter de ce qu'on a. Il faut toujours essayer de faire mieux dans ce domaine-là, en tout cas. Et aujourd'hui, c'est vrai que Marseille est à la rue. Hey, nous avons le président qui est venu avec 7 ministres pour enfin essayer de débloquer une situation qui est catastrophique après, il faut le dire, des décennies de très mauvaise gestion où nous avions des politiques qui manquaient absolument de vision et qui s'en fichaient, quoi. Et aujourd'hui, bon, je ne sais pas, je ne veux pas... Pas anticipé, nous avons une nouvelle mairie avec un conseil municipal qui a 1 an à peine, qui est arrivé dans une ville complètement sinistrée. C'est ce que dit la partie que Gary chante, hein, avec un constat qui est évident. Malheureusement, quand il dit toutes les semaines un gamin bute un autre gamin, aujourd'hui c'est toutes les semaines 3 gamins, un gamin ou 3 gamins butent 3 gamins. Dans mon quartier, nous avons eu 7 morts en 3 semaines, ou 8 morts, je ne sais plus, dans un périmètre d'un kilomètre autour de chez moi. Et dans certains bien plus près que ça, et des jeunes que parfois on connaît. Donc cette situation est ultra catastrophique, économiquement, socialement, la violence, les gens commencent à avoir peur. Maintenant chez nous, moi je commence à mes voisines, elles me disent je sors plus après 9h du soir parce que j'ai peur de prendre le bal perdu. C'est pas des réalités de feuilletons de séries télévisées américaines, hein, c'est la réalité marseillaise aujourd'hui. Voilà. Donc malheureusement, cette chanson est un triste constat d'une vraie réalité. Bon, moi, je prends une espèce de contre-pied à Gary en lui disant, en répondant, ben, il faut réagir, hein. Donc, si Marseille est à la rue, alors il faut que la rue soit à Marseille. Donc, c'est un peu un clin d'œil aux copains de la rue qui est à nous. Vous savez, qui ont trouvé leur nom en disant, on est à la rue, ils étaient probables à la rue. Ils ont dit, ben, c'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Je trouve que c'était très joli, cette version, cette façon de voir les choses. Et on s'est un peu amusé à la paraphraser. Mais parce que c'est vrai qu'il faut réagir.
Le président et ses ministres viennent souvent nous visiter. C'est le préfet qui les assiste à grand renfort policier. Pas la peine qu'on leur explique, leur siège est déjà fait. Au nom de la République, il faut mater ces Marseillais. Il faut mater ces Marseillais qui parlent d'identité. Ce sont des séparatistes, vite il faut légiférer. Ils signent et ils persistent, tous d'accord à l'Assemblée. Plus aucun doute ne subsiste, on n'est pas du bon côté. Si tu veux être français, tu dois pas sortir de la piste. Et dans le pays entier, on voit s'allonger la liste de ceux qui ont dérapé vers les...
À la rue, Massilia Sound System sur RFI.
Et comme à chaque fois qu'un nouvel album de Massilia sort, au vu du nombre de textes, on est en droit de se demander s'ils les connaissent bien pour les interpréter sur scène, n'est-ce pas, Papé?
La question qui tue. Certaines sont difficiles. Certaines sont plus difficiles que d'autres. Il faut se concentrer, bien les répéter juste avant de chanter, vite fait. Mais à la rue, par exemple, hein. À la rue, c'est une chanson, on ne l'avait jamais fait comme ça, hein. Gary et moi, chacun vient et fait son espèce de monologue de 32 vers, c'est long, quoi. Il faut les tenir, quoi. C'est une espèce de course de demi-fond, là. Quand on a fini, croyez-moi, on souffle. On est heureux quand on ne s'est pas trompé.
Merci infiniment, Papé, pour cette invitation que vous avez acceptée.
Eh bien, merci de l'avoir lancée. et bien, encore une fois, eh bien, un grand aïeul à tous les auditeurs du monde entier qui écoutent RFI et votre émission en particulier, qui est toujours très accueillante et à laquelle on participe toujours avec grand, grand plaisir.
Merci beaucoup.
Au revoir, Alain.
Au revoir, Papé.
N'embrouille pas la Massilia, sinon tu risques des problèmes, cousin. Tu le sais?
Tu le sais?
On avance à le caractère, faut pas nous parler de travers, sinon on peut perdre nos nerfs et tout foutre à l'envers.
Et le sale caractère de Massilia Sound System est sorti chez Baco Distribution, label Manivette Records. Massilia Sound System en concert notamment le 17 septembre à Montpellier au Rockstore, le 4 novembre au Bikini à Toulouse, le 5 à La Tabale à Biarritz, le 8 décembre à l'Elysée Montmartre à Paris et le 18 au Transborder à Lyon. Merci Alain. Dans un instant, les infos, à demain avec l'auteur, metteur en scène et directeur de théâtre Jean-Michel Ribes, et vous m'en direz des nouvelles.
RFI, la